Notre prochaine invitée est Mme Caitlande Pierre. Mme Caitlande Pierre, bonjour.
Bonjour, M. Hacquet. Merci beaucoup pour l'invitation.
Vous avez donné une conférence vendredi dernier sur le leadership au féminin auprès de l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais, l'AFIO. Avant de dire le but de cette conférence, eh bien, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous, Mme Caitlande Pierre?
OK. Alors, je suis une personne, comme de nombreuses personnes, très impliquée dans la communauté. Et en ce moment, j'ai le plaisir de servir à titre de vice-présidente du Conseil de la communauté noire de Gatineau. L'AFIO, que vous avez mentionné tout à l'heure, m'a également fait l'honneur, en collaboration de la Chambre de commerce, d'être nommée Femme d'influence en 2020 de notre belle région.
Oui.
Et puis, je suis également gestionnaire dans la fonction publique fédérale. D'un point de vue académique, j'ai un parcours en génie et en gestion de projets technologiques. Alors, je pense que ça fait un peu le tour de qui je suis.
Voilà. Alors, qu'est-ce que le leadership au féminin?
C'est très intéressant que vous me posiez la question parce que c'est la première question que j'ai posée aux personnes qui participaient à l'atelier.
Oui.
Mais le leadership au féminin, en fait, bon, il y a le leadership qui touche tout le monde,
oui,
mais ça met en lumière les difficultés que les femmes vont vivre en termes d'accès au pouvoir, en termes d'équité salariale, bref, ce fameux plafond de verre dont on parle depuis 1970.
Mmh.
Donc, c'est-à-dire que, le leadership, d'abord, c'est une question d'influence. Donc, ça n'a rien à voir avec notre position, mais notre capacité à rallier les gens autour d'un même but et d'être suivi de façon volontaire par un groupe d'individus. Cependant, en raison des stéréotypes, en raison des mentalités, les femmes ont des difficultés que les hommes n'ont pas.
Mmh. D'accord. Lors de la conférence, eh bien, vous avez également parlé de la masculinité positive. C'est quoi exactement?
Oh, ça c'est ça nous vient de l'Afrique,
ah oui?
Du Rwanda. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand bien même qu'on ferait la promotion des femmes à travers des quotas, quand bien même que nous dotons des postes, des femmes à des postes de pouvoir, il reste encore de la discrimination, il reste encore une culture qui est très masculine, puis on la comprend tout à fait à cause de l'histoire.
Mmh.
Alors la masculinité positive, c'est de la formation qu'on offre aux couples et aux hommes, où les hommes apprennent justement à revisiter leur masculinité. C'est-à-dire qu'un homme peut être très viril, il peut être le chef de son foyer, donc pour celles qui sont très spirituelles,
mm-hmm,
et partager les tâches ménagères, prendre soin des enfants. Parce que ce qu'on a observé, c'est que il y a une pression qui est sur la femme en ce moment. La femme travaille, contrairement au passé, mais il y a toujours une division là non équitable dans les tâches au niveau de la maison.
Oui.
Et on pense que pour l'avenir, il va falloir que la femme et l'homme, donc le mari et la femme, se mettent ensemble pour être capable de supporter les femmes également sur le marché du travail.
Oui. Alors, toi et moi, on vient d'une même culture, hein, si on peut le dire ainsi, la culture noire. Toi étant donc des Caraïbes et moi d'Afrique, je ne sais pas, peut-être que hein, tu vas peut-être me contredire dans ce que je vais dire, mais moi, en tant qu'homme, homme noir, homme africain, quand j'étais jeune, là, en Afrique, au Togo, et que mes sœurs, ce seul garçon d'une famille de 8 enfants, lorsque je vais à la cuisine, ma mère et mes sœurs me chassaient. Donc, je n'avais pas droit hein, d'être là, de pouvoir aider à la cuisine parce que c'était un lieu qui était réservé aux femmes et pas moi, quoi, tu vois. Alors, à quelque part, avec cette éducation-là où c'est toujours, où on apprend très jeune que ben, c'est à la femme d'être à la cuisine, de faire les besoins de ménager et tout ça, et pas les hommes. Est-ce que ça ne devient pas difficile ici d'être en conformité avec ça?
Effectivement, c'est très difficile. Et durant l'atelier, justement, on a parlé de la puissance des stéréotypes. Et ce que la science nous dit, c'est que la majorité des stéréotypes qui vont gouverner nos vies, ben, on va les acquérir entre l'âge de 6 ans et 8 ans.
Mmh.
Et à moins d'être conscient, à moins d'avoir un débat public ou de faire un effort pour les mettre au niveau de la conscience, on est un peu bloqué.
Oui.
Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez donné comme exemple parce que c'est les femmes qui vous interdisaient d'aller dans la cuisine.
Oui.
Donc, tant la femme que l'homme, on est un peu victimes du fait qu'on nourrit encore les anciens stéréotypes qui ne nous servent plus vraiment. Mm-hmm. Donc oui, c'est pas facile, ça va prendre des efforts des deux côtés.
Oui.
Ça prend une discussion entre familles pour changer cette mentalité.
Oui. Mm-hmm. Non, définitivement, parce que arriver au Canada à 19 ans et doit téléphoner à sa mère au Togo pour faire une sauce tomate et comment faire que du riz, je dois t'avouer que c'était traumatisant plutôt. Alors.
Mais nos jours, on a un ami qui s'appelle Google.
Voilà, c'est ça, c'est ça. quels sont, selon toi, les défis des femmes au quotidien et aussi des femmes immigrantes ici en Outaouais, puisque tu en rencontres souvent?
Mon Dieu, les défis, il y en a beaucoup.
Mm-hmm.
Il y en a beaucoup. Mais si on veut rester dans la discussion du leadership,
oui.
J'ai partagé avec les participantes et participants certains comportements qu'on va intérioriser, qui vont nous empêcher de nous épanouir au travail et qui vont avoir un impact sur l'expérience de la gestion, parce qu'on parlait également de la difficulté d'accéder à des postes de pouvoir. Donc, je pense que la première difficulté, c'est de naviguer un peu dans tout ça sans reconnaître les stéréotypes et leur puissance sur nous-mêmes. Donc, on a beaucoup de femmes, par exemple, qui vont faire profil bas, qui vont non pas être discrètes de façon stratégique, mais vraiment pour se faire oublier. Mmh. On a un peu peur de prendre la parole. On a également ce défi de conciliation de vie familiale et professionnelle.
Mmh.
Parce que, encore une fois, les femmes ont grandement milité pour avoir accès et pleinement au marché du travail, mais à la maison, il n'y a pas le système de support.
Oui.
Donc, ça, c'est un défi parce que moi, en tant que mère, c'est important pour moi d'être une bonne mère. La vie matrimoniale également est très importante. La vie professionnelle est très importante. Donc, on a parfois ce sentiment qu'on appelle une expérience d'imposteur ou syndrome d'imposteur,
mm-hmm.
de devoir performer et être au top dans tous les domaines de la vie. Donc, mm-hmm. là, on a l'épuisement professionnel là, qui devient un danger.
Oui.
Et puis, il y a également, je pense qu'il vaut la peine de souligner toute cette culture qui est masculine.
Mmh.
Donc, les rencontres qu'on va avoir à la fin des quarts de travail, qui ne tiennent pas compte, par exemple, de l'horaire des garderies. Donc,
oui.
Vraiment, la culture est définitivement un défi pour les femmes.
Pour les femmes, oui. Parlons maintenant donc de la santé mentale des femmes, entre autres. Vous avez effleuré un peu le sujet lors de la rencontre. Est-ce que vous avez une expérience personnelle à partager et comment travailler, puisque ce sujet, hein, le sujet notamment de la santé mentale est tabou dans nos communautés?
Mmh. Oui, effectivement, on en a discuté et ça devient essentiel d'en parler. Personnellement, j'ai vécu un épuisement professionnel parce que j'étais cette personne qui avait le sentiment, et là, je vais au-delà du fait que je suis une femme et le fait que je suis une femme noire et que
oui.
j'étais jeune, donc il y avait plein de points identitaires qui jouaient contre moi selon les stéréotypes. Donc, j'avais le sentiment, le syndrome d'imposteur, c'est-à-dire
oui.
que je devais être plus performante que l'homme, plus performante que la femme blanche. Donc, on est toujours en performance, au point où parfois on oublie de profiter de l'expérience de gestion. Et puis, bon, l'épuisement professionnel, comme vous le savez, ça vient également avec accompagné d'une dépression.
Oui.
Et comment est-ce qu'on s'en sort? Mais c'est une prise de conscience. Et puis, moi j'ai pas hésité également faire appel à de l'aide d'un professionnel, donc un psychologue qui m'aide un peu à visiter mes pensées limitantes ou ces stéréotypes-là. Parce que du moment qu'on les identifie, on est capable de les adresser consciemment. Et puis, bon, on garde les yeux ouverts par rapport à ce qui nous rend complète et ce qui nous rend heureux aussi. Donc, on veut rapidement monter les échelons, mais il ne faut pas non plus oublier les autres aspects de nos vies. Donc, je fais toujours un effort au début de l'année et de façon épisodique quand je revisite mes objectifs. Je m'assure de ne pas oublier moi, Kaitlyn, la femme, pas oublier Kaitlyn, la mère, Kaitlyn, la fille, etc. dans toutes les dimensions de mon identité.
Oui. Kaitlande, vous êtes une personnalité inspirante. Hein. On peut aussi le dire, hein, dans la vraie vie, on se connaît, on est donc des amis. J'ai vraiment vu vraiment cette évolution, hein, et aussi de la femme entrepreneur, la femme d'affaires que vous êtes aujourd'hui. Alors, j'ai envie de vous demander aussi de nous partager quelles sont trois personnalités qui vous inspirent.
Bon Dieu, il y en a beaucoup. La celle qui m'inspire, qui est juste à côté de nous, on a notre précieuse Mireille Apollon.
Oui.
Mireille Apollon m'inspire en ce que je peux faire après la retraite. Alors, faut savoir. Oui, elle est vraiment impressionnante parce que généralement, on finit sa carrière, on a tout, puis on s'arrête là. Oui. Mais Mireille Apollon est très présente auprès des femmes noires de la région. Mm-hmm. Donc, elle nous donne du coaching, du mentorat, elle nous met en contact avec certaines personnes. Et ça m'inspire beaucoup. Et ça fait plusieurs années qu'elle le fait. Mm-hmm. Il y a également la fameuse Michelle Obama.
Oui.
Celle-là, je l'adore à cause de son authenticité. Oui. Parce que vous savez, quand on monte les échelons, bien souvent, on s'éloigne un peu de notre communauté. Et j'aime le fait qu'elle soit restée proche de sa communauté. C'est-à-dire qu'on peut servir la communauté tout entière, tout en embrassant qui on est. Donc, elle fait toujours un clin d'œil aux femmes noires, aux enfants noirs, donc elle ne les oublie pas. Donc, en ce sens-ci, c'est une femme qui m'impressionne beaucoup. Et puis, on connaît également son parcours académique. C'est une femme très rigoureuse. Et finalement, j'aime le fait que, durant tout son cheminement, elle a embrassé le fait d'être mère et bien de passer également les valeurs traditionnelles à ses filles. Oui.
Oui. Et un livre préféré ou un livre de chevet en ce moment, Kaitlande Pierre?
Je lis beaucoup, OK? Puis quand je n'ai pas le temps de lire, vraiment, j'écoute les livres audio. Mm-hmm. Mais il y a un livre qui a beaucoup changé ma vie. C'est un livre d'ailleurs que j'ai beaucoup utilisé pour ma conférence, la conférence que je préfère de toutes mes conférences, qui est Le pouvoir de rêver grand. Et ce livre-là s'appelle The Magic of Thinking Big. Donc, c'est par David Schwab. Je ne sais pas s'il est disponible en français, mais ouais, c'est mon livre préféré, à lire et à relire.
D'accord. Et Kaitlande et la politique, c'est dans un avenir proche, lointain ou jamais?
C'est toujours la question surprise, hein? Écoutez, je suis à ce point dans ma carrière où vraiment je cherche quelque chose qui correspond à ce que je veux vraiment faire. Ce que je sais que je veux faire, c'est que je veux continuer à utiliser ma voix. Je sais que je veux continuer à servir. La politique, pourquoi pas? Voilà. Donc, je suis ouverte vraiment à toutes les options, toutes les possibilités qui vont me permettre de continuer à servir la communauté.
Merci beaucoup. Je rappelle que notre invité était Kaitlande Pierre. Merci.